Souvent, c'est un spectacle dans la nature. C'est vrai qu'un bébé aussi peut être un très beau spectacle.
Pour commencer, j'ai oublié de vous mentionner que nous avons reçu une lettre de Anne-Cécile. Qui a dû partir un peu vite en vacances. Et qui vous adresse son salut. La lettre est affichée derrière là-bas. Et je crois que c'est une lettre qui vous encouragera tous et toutes. N'oubliez pas de la lire. Apocalypse 15, chapitre 15. Si vous êtes ici avec nous pour la première fois, nous avons un principe qui est d'étudier la Bible ou des livres de la Bible de A à Z. Et ces derniers temps, nous sommes arrivés à un passage qui n'est peut-être pas toujours ce que l'on souhaite le plus entendre. Parce qu'il s'agit en fait de voir la colère de Dieu contre le péché. Nous savons que Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et du fait de sa sainteté, il ne peut pas tolérer le péché. Il a une sainte colère contre le péché. Et je crois que pour apprécier l'amour de Dieu, il faut comprendre sa haine du péché. Donc nous allons voir un peu cet aspect de Dieu qui n'est pas toujours celui dont on entend parler le plus souvent. On parle d'un Dieu coléreux. Mais c'est aussi un aspect de Dieu. Lisons ensemble le chapitre 15. Puis nous continuerons avec le chapitre 16. Le chapitre 15 va nous parler de ce qui se passe dans le ciel à un moment donné. Et le chapitre 16 parlera de ce qui se passe sur la terre au même moment. Lisons ensemble. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Après cela, je regardai le sanctuaire du tabernacle, du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept plaies sortirent du sanctuaire. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la fureur de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire, jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges soient achevées. Jean voit donc dans le ciel un autre signe. Vous vous souvenez que dans Matthieu 24, les disciples demandaient à Jésus quel serait le signe de son retour. Et on avait vu qu'en fait, un des premiers signes, c'était le signe du figuier qui reverdit. Et le figuier représente Israël. Donc c'est le symbole du renouveau d'Israël. Israël qui s'est justement reconstitué en État-nation en 1948. Un autre signe, c'est le signe de l'inconscience de l'humanité semblable à celle du temps de Noé. Finalement, le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel. Ça, c'était dans Matthieu 24. Et ici, de même, dans l'Apocalypse, on voit trois signes qui sont précurseurs du retour du Seigneur. Il y avait d'abord la femme Israël, au chapitre 12.
Woman.
Israël. Ensuite, il y avait le dragon, c'est-à-dire le diable, qui persécute la femme. Et finalement, c'est ce dernier signe, ce sont les sept anges qui frappent le monde par des fléaux catastrophiques. Des fléaux qui manifestent la colère de Dieu. Il est dit dans Hébreux que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et il nous faut réaliser que c'est uniquement par sa grâce que nous ne sommes pas réduits à néant, en poussière, juste maintenant. Nous reviendrons à ce sujet. Il est dit que ce signe est grand et admirable. Parlant de la colère de Dieu. C'est grand et admirable parce que ça procède de la justice de Dieu qui, nous allons le voir, est grande et admirable. Au verset 2, il est question d'une mer de cristal. On avait déjà retrouvé cette image dans le chapitre 4. Je pense qu'il symbolise la multitude des croyants, de l'Église qui a été enlevée avant le début de cette terrible période, la Grande Tribulation. Et qui sont en paix devant le trône de Dieu. Je ne peux pas prévoir le temps ce soir. Mais souvent, vers cette heure du crépuscule, vers 7h, 8h, lorsqu'il y a l'arrêt de la brise qui vient de la terre et l'arrêt de la brise qui vient de la mer, il y a un moment où le vent s'arrête complètement. Et il y a ce sentiment de paix totale sur la mer. Et c'est quelque chose qui est très apaisant à regarder. Et si nous trouvons la paix en Christ, nous avons en nous cette paix à tout moment. Même dans les difficultés, nous pouvons réagir, avoir des traits tirés, des choses comme ça, mais au fond du cœur, nous avons cette mer calme et plate. Et donc, cette église qui a été enlevée et qui a la paix devant le Seigneur, c'est comme une mer plate. Il est dit qu'elle est mêlée de feu, quand même.
Et je crois que ce feu, c'est peut-être l'indignation justement de l'Église devant le martyre de ceux qui passent par la tribulation. Et puis, il voit un autre groupe, les vainqueurs de la bête, de son image, et le cantique de l'agneau, et du chiffre de son nom.
Verset 2.
Et on sait que ceux-là, ce sont les 144 000. Les Juifs qui ont été scellés par l'Esprit Saint et qui traversent la période de la tribulation à l'abri de cette tribulation. Il est dit qu'ils chantent le cantique de Moïse, ce qui nous encourage à penser que ce sont bien les 144 000 Juifs. Dans Exode 15, il y a un très beau cantique, un chant de victoire du peuple juif après la traversée de la mer Rouge. C'était un chant de délivrance de l'esclavage d'Égypte. Et ce chant, ils chantent un autre chant qui est le cantique de l'agneau. Et pour eux qui sont au ciel, c'est un chant de délivrance de la terre. Un chant de rédemption, ils ont été rachetés. Ils appartiennent à Dieu, ils sont en paix. Et ce qu'ils chantent, c'est que tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est très important de comprendre ça par la foi. Comme on l'a prié tout à l'heure, c'est seulement par la foi que l'on peut plaire à Dieu. Il est très important que tout ce qu'il fait est juste, est véritable, grand et admirable. On ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de nous. On ne connaît pas toujours le pourquoi des événements. Et Dieu a tout fait pour que nous le connaissions, lui qui connaît toutes ces choses. Et donc à tout moment, dans toutes circonstances, nous pouvons dire que ce qui se passe, c'est grand, c'est admirable, c'est juste, c'est véritable. Il est très important d'avoir confiance en Dieu. Parce que si il y a des fois où on se dit peut-être qu'il s'est endormi là. Et c'est pour ça que je me retrouve avec un tel problème. Nous ne savons pas pourquoi le théâtre de Verdure a été fermé au dernier moment. Pourquoi nous devons reporter l'événement. Maintenant, nous commençons à voir que peut-être le Seigneur a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus impactant, avec beaucoup plus d'impact pour quelques mois. Mais il faut se rappeler qu'il est juste, il est grand et il est admirable. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et la prophétie, toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi parce que ta justice a été manifestée.
La souffrance mène à la gloire. On connaît le passage dans Philippiens 2 qui parle de l'humiliation de Jésus-Christ jusqu'à la croix, jusqu'à mourir sur la croix. Et aussitôt, il y a cette logique que cette humiliation, cette souffrance, elle est suivie de la gloire. Philippiens 2, 8, je lis, c'est pas, vous pouvez écouter. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le psaume 2, on voit aussi qu'un jour, toutes les nations vont se prosterner devant le Seigneur Jésus. Verset 5, il est question du sanctuaire du tabernacle qui fut ouvert dans le ciel. Nous avons déjà dit que le tabernacle terrestre, dont les plans avaient été donnés à Moïse, est construit dans le désert. C'était un modèle réduit, en quelque sorte, de la réalité céleste. Quand on contemple et qu'on voit la description de ce tabernacle, on l'a étudié ensemble il y a plusieurs mois dans le Lévitique. On comprend mieux tous ces passages. Et on voit l'harmonie qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les sept anges qui se tiennent sortent du sanctuaire. Ils ont des vêtements qui les font ressembler aux grands prêtres de l'Ancien Testament. Et ils tiennent sept coupes qui renferment des plaies, c'est-à-dire des cataclysmes. Et il est dit que ces sept coupes sont pleines de la fureur de Dieu qui vit au siècle des siècles. Encore une fois, ne parler que de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on trouve dans certaines églises libérales, où la religion n'est plus qu'un humanisme philanthropique. En fait, si on ne prêche pas la fureur de Dieu, on ne prêche pas la réalité de Dieu. Et c'est le danger, c'est qu'on puisse, on peut endormir les gens. Avec un sentiment de fausse sécurité. Dieu est bon, je ne suis pas parfait, mais je ne me fais pas de soucis, parce qu'il va me pardonner. Ce n'est pas l'évangile, ça. Souvent, les gens parlent de l'Ancien Testament en disant qu'il y avait un Dieu sanguinaire. Et ils veulent qu'on leur parle de Jésus, du Dieu du Nouveau Testament. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Apocalypse. Et aussi, dans l'Ancien Testament, il est question de la grâce et de l'amour et de la bonté de Dieu. Il n'y a pas des églises du Nouveau Testament, puis des églises de l'Ancien Testament.
être des églises de toute la parole de Dieu.
Et maintenant, nous allons voir au chapitre 16 quels sont ces cataclysmes dont il est question.
J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, « Allez, versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. » Première coupe, verset 2, « Le premier partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. » Nous allons voir en lisant ces différents fléaux, qu'il ressemble beaucoup aux plaies d'Égypte. Et qu'il rappelle aussi les trompettes dont il est question dans l'Apocalypse. Cette première coupe, sont donc les ulcères. On pense à Hiroshima, Nagasaki, et les plaies, les lésions, les tumeurs qui se sont développées après la pollution nucléaire. On peut penser qu'en dépit des progrès de la médecine humaine, il semble qu'il arrive chaque année de nouvelles maladies. La maladie d'Ebola, par exemple. Le sida, bien sûr. D'autres staphylocoques qu'on n'arrive plus à soigner. Il est dit que là, ça va être encore terrible. Dieu va répandre la maladie sur ceux qui se sont prosternés devant l'Antéchrist. La seconde coupe, verset 2, « Le second versa sa coupe dans la mer qui devint du sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants moururent, ceux qui étaient dans la mer. » Souvenons que Moïse avait changé l'eau du Nil en sang. Là, ce sera une pollution universelle de la mer. Avec tous les animaux marins qui seront mis à mort, exterminés. Il y aura une pollution marine qui fera des pollutions qu'on a eues avec les pétroliers, des bricoles. Versets 4 à 7. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, ils devinrent du sang, et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es juste toi qui es et qui étais, toi le saint d'avoir exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Je continue, j'entendis l'autel dire, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Non seulement la mer, mais aussi toute l'eau potable sur la terre, les sources d'eau seront changées en sang. On imagine que les stocks d'eau minérale seront complètement dévastés en quelques jours. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a cette voix qui dit, un ange des eaux, donc un ange qui a contrôle sur toutes les eaux, qui dit que c'est juste. Ils le méritent parce qu'ils ont versé le sang des saints et maintenant ils n'ont plus que du sang à boire.
Out the blood, because they poured out the blood of saints and prophets,
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la Bible. La punition de Dieu ressemble souvent au crime. Le pharaon d'Égypte, vous vous souvenez, avait voulu noyer les bébés. Et c'est lui qui s'est retrouvé noyé avec ses armées lorsque la mer rouge s'est refermée. Dans le livre d'Esther, on voit comment Aman avait fait un complot pour pendre tous les Juifs. Plutôt pour tuer tous les Juifs et faire pendre Mordecai, Mardoché en français. Et qu'en fait, c'est lui qui s'est retrouvé pendu. Le roi Saül avait refusé de détruire complètement les Amalécites. Et il s'est fait tuer justement précisément par un Amalécite, un homme de cette tribu. Versets 8 à 9, nous voyons maintenant une terrible chaleur solaire. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, il lui fit donner de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. On ne sait pas si c'est à la suite peut-être d'un conflit thermonucléaire, ou d'un problème en relation avec la disparition de la couche d'ozone. On sait maintenant que l'usage de produits fluorocarbonés, et aussi les voyages des jets dans la haute atmosphère, détruisent la couche d'ozone qui est comme un bouclier qui nous protège des rayons ultraviolets. Et il est dit, ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Verset 9. Verset 10. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Trône de la bête, on pense que c'est soit à Jérusalem, soit peut-être à Rome. On a dit que l'Antéchrist était le leader de la Rome reconstituée. Il y a ces ténèbres qui engloutissent le royaume de la bête. Et ce qui est encore frappant, c'est que malgré ces souffrances, malgré ces persécutions, malgré ces choses terribles, les hommes ne se repentent pas. Il y a un endurcissement du cœur. Et vous vous souvenez que Paul disait dans Romains, Romains 2, verset 4, méprises-tu les richesses de la bonté, parlant de Dieu, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu ne prend pas plaisir à la violence contre la terre, contre l'homme. Mais quelqu'un a dit, si les hommes ne sont pas gagnés par la grâce, ils ne seront jamais gagnés. Ce qui nous touche le plus, parce que notre cœur est dur, c'est de voir l'amour que Dieu nous donne en dépit de cette dureté de cœur. De réaliser que c'est seulement par sa grâce que nous ne sommes pas consumés. Lorsque nous prenons conscience de son amour et de sa patience, alors là, c'est la repentance. Sa bonté nous conduit à la repentance. Parce que dans le même passage, Romains 2, les versets qui suivent, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. N'endurcissons pas nos cœurs. Ce message qui est répété et répété dans la Bible. L'Esprit Saint peut toucher un cœur qui s'ouvre. Et un cœur qui est fermé. Tout ce qui pourrait être fait, c'est être détruit par la colère divine. Continuons avec l'Apocalypse 16, 12 maintenant. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce fleuve, l'Euphrate, est souvent mentionné dans la Bible. Il est bien connu en France par les écoliers. Pourquoi est-ce que les poules ne pondent pas en Mésopotamie? Parce qu'ils rencontrent le tigre et l'Euphrate. Venez me voir plus tard. C'est un grand fleuve qui fait près de 3000 kilomètres. De 5 à des fois 20 kilomètres de large dans sa vallée. Neuf mètres de profondeur. Et c'est vrai que c'est une barrière naturelle. Au temps de la plus grande expansion d'Israël, c'était la partie la plus à l'est d'Israël. La frontière. Et là, il est prédit que ce fleuve sera desséché. Et que ça préparera la voie aux rois qui viennent de l'Orient. On a déjà parlé de ces rois qui viendraient de l'Orient avec près de 2 myriades, c'est-à-dire 200 millions de soldats. Pour mener cette fameuse guerre ou bataille de la vallée d'Armageddon. Ar veut dire colline, et Mageddon, c'est la colline de Megiddo. Et Napoléon avait vu cette vallée dans son voyage en Égypte. Et il disait que c'était le champ de bataille le plus naturel du monde.
And he said it was the most natural
Et tout au long de l'histoire, il y a eu des batailles dans cette vallée. Barak contre les Canaans. Gédéon contre les Madianites. C'est là que le roi Saül est mort. C'est là aussi que les armées de Titus sont venues envahir Jérusalem. Il y a eu des croisades dans cette région. Et en 1917, c'est là que le général anglais Allenby a battu les Turcs. Mais ce sera rien à côté de cette bataille dont on parlera un peu plus tard encore dans l'Apocalypse. Verset 15, c'est un petit répit dans cette description chargée de malheurs et de terribles fléaux. C'est Jésus qui nous dit « Voici, je viens comme un voleur ». C'est un thème que l'on retrouve aussi dans la Bible. Dieu veut que nous soyons prêts à tout moment à le retrouver. Et pour l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas de signe avant-coureur précis. Et de la même façon, pour ces 144 000, eux aussi seront enlevés. Christ veut nous encourager. Soyons prêts. Finalement, le septième fléau, la septième coupe, le septième versa sa coupe dans l'air, il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient environ un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême. Plus grand tremblement de terre de l'histoire qui va exploser l'échelle de Richter, qui va diviser Jérusalem en trois morceaux, prophétie qu'on retrouve dans Zacharie 14:4, toutes les grandes villes, Londres, Paris, Rome, Berlin, New York, San Francisco, LA, Mexico, Tokyo, toutes ces villes seront détruites. Pour terminer, la plus grande averse de grêle de l'histoire. Souvent, on voit des catastrophes naturelles, un tremblement de terre. Puis on entend le lendemain, à un autre endroit, il y a eu une trombe d'eau. Ou des chutes de grêle qui ont tout dévasté quelque part. Là, après ces tremblements de terre terribles, si jamais il y en avait encore qui étaient vivants, il trombera des morceaux de grêle comme des talents, c'est-à-dire pesant près de 50 kilos. Peut-être parmi vous, il y en a qui se souviennent du temps où on livrait la glace, un gros bloc de glace. Et après il fallait les détruire pour en faire des glaçons. Imaginez ces gros blocs de glace tombant du ciel. Rassurez-vous, nous allons voir bientôt le retour de Christ qui va arrêter le massacre.
Et vous n'avez pas enduré ces fléaux. Vous n'avez pas à recevoir le jugement de Dieu. Dieu ne le souhaite pas. Et c'est vrai que c'est un Dieu d'amour. Et il vous aime tant qu'il a pris toutes les mesures possibles pour que vous n'ayez pas à subir ses jugements. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça lui a beaucoup coûté de vous épargner sa colère. Il a dû donner son propre Fils. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il nous dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et vous avez rejeté la lumière. Peut-être que vous vous dites, j'ai des raisons pour expliquer pourquoi j'ai rejeté Dieu. Pour justifier vos mauvaises actions. Peut-être vous dites, j'ai pas eu de chance. J'ai eu une enfance malheureuse. Mes parents me battaient. On était pauvres. J'ai eu des mauvaises influences. Mais en fait, vous n'avez aucune excuse pour rejeter la lumière de Dieu. Peut-être vous dites, oh, il y a trop d'églises différentes. Je ne sais pas à laquelle aller, je ne sais pas laquelle choisir. Dieu ne vous a pas demandé de choisir une église. Il vous demande de choisir son Fils. Peut-être vous dites, oh, les églises, il y a plein d'hypocrites. Ils parlent d'amour, mais derrière le dos des gens, ils disent des méchancetés. Dieu ne nous a pas demandé à croire à des hypocrites. Il vous demande de croire à son Fils Jésus. Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Je ne sais pas si vous avez regardé la télévision hier au soir. Il y avait un grand concert au Palais des Sports, au Parc des Princes à Paris. Il y avait des choses qui n'étaient pas trop mauvaises. Par contre, il y avait des chansons dont on imprimait le texte avec des paroles obscènes. Et tout le monde était là en train de lever les bras et de danser avec ces paroles obscènes. Et à Strasbourg, pour la campagne de Louis Palau, il y avait peut-être 2000, 3000 personnes au maximum. Des gens aussi qui ont chanté dans la joie. Les journaux disent que c'est de la manipulation émotionnelle. Mais 45 000 personnes qui sont là en train d'adorer.
But the 45,000 people last night who were sitting there adoring the singer.
Alors là, c'est diffusé en grand.
Dieu est patient. Mais un jour, sa colère va tomber sur ce monde qui le rejette.
Et peut-être vous êtes de ceux qui disent, moi je choisis les ténèbres.
Peut-être vous êtes de ceux qui disent, je veux pas de quelqu'un qui me dise comment vivre.
Je veux pas de son amour. Je le veux pas dans ma vie.
Je veux rien avoir à faire avec un Dieu.
Eh bien, Dieu va honorer votre désir.
Il va complètement se retirer de votre vie.
Louis Palau plaisantait l'autre soir en parlant de Jean-Paul Sartre.
Et disait,
ça ne devait pas être très, très, très excitant, très, très chaleureux de se retrouver avec Jean-Paul Sartre.
En train de prendre le café à la terrasse d'un café au quartier latin.
Parce que sa grande théorie, c'est que l'enfer, c'est les autres.
Donc ça devait être très chaleureux de prendre le café avec quelqu'un sachant qu'il pense que vous êtes l'enfer.
Sartre a une influence démoniaque sur notre société.
Il a proféré des mensonges que tout le monde a repris.
Et les gens pensent qu'ils pensent parce qu'ils pensent comme Sartre.
Mais le pauvre, il est mort d'une mort horrible,
rejeté, sans
famille,
sans aucun espoir,
en se trompant lui-même complètement.
Et en trompant tellement d'autres personnes.
Parce que l'enfer, c'est pas les autres.
L'enfer, c'est l'absence de l'amour de Dieu.
Et si Dieu retirait aujourd'hui complètement son amour sur la terre, nous connaîtrions l'enfer.
Nous avons déjà rappelé que si l'atmosphère, la couche d'atmosphère était un peu plus réduite, si la Terre était plus grosse, nous ne pourrions pas vivre.
Si Dieu décidait de faire cesser de briller le soleil, qui brille sur le bon comme sur le méchant, nous ne pourrions plus vivre.
Encore une fois, nous avons vu la colère de Dieu décrite dans Apocalypse 15 et 16.
Mais pour terminer, je lirai ce petit traité qui dit
« Je suis la lumière et vous ne me voyez pas.
Je suis le chemin et vous ne me suivez pas.
Je suis la vérité et vous ne me croyez pas.
Je suis la vie et vous ne me choisissez pas.
Je suis le maître et vous ne m'obéissez pas.
Je suis Dieu et vous ne me cherchez pas.
Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas.
Prions.
Seigneur, merci pour ton amour.
Et merci aussi, Seigneur, de nous montrer ta sainte fureur
Et pardonne-nous, Seigneur, si nous tolérons le péché comme quelque chose d'anodin dans nos vies. Fais de nous un peuple saint, Seigneur. Fais de moi un homme saint, Seigneur. Et peut-être parmi vous, il y en a qui réalisent que ils ont rejeté Dieu jusqu'à présent. Vous savez maintenant que vous êtes exposé à la terrible colère de Dieu. Mais Dieu veut que vous compreniez son amour. Il veut que vous réalisiez sa bonté jour après jour. Et que votre cœur soit assez tendre pour venir à la repentance. Pour cela, je veux proposer une occasion de prier. Si vous voulez venir accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, accepter la lumière qu'il a envoyée. Vous pouvez prier en silence cette prière. Seigneur, je réalise que je suis un pécheur, que j'ai vécu ma vie en me détournant de toi. Pour moi, pour mon plaisir, mon égoïsme, je reconnais que j'ai fait du mal autour de moi, Seigneur. Peut-être j'ai fait du bien, mais j'ai fait aussi des choses que je regrette, Seigneur. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je te demande de venir en moi, Seigneur. Seigneur, je me détourne, je me repens de ma vie passée. Au lieu d'aller vers le péché, je veux venir vers toi, Seigneur. Seigneur, je reconnais que je ne mérite pas ton amour. Mais Seigneur, j'accepte ton sacrifice. Viens vivre en moi par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Par le nom de Jésus. Si vous avez prié cette prière pendant que nous sommes encore dans le recueillement, je vous demanderai de lever la main. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Ayez l'assurance que le Seigneur qui a dit « Je frappe à la porte de votre cœur » celui qui ouvre la porte de son cœur, je viendrai chez lui, je viendrai chez elle pour dîner avec lui ou avec elle. Béni soit le Seigneur. Qu'il vous bénisse et vous fortifie dans cette décision. Venez me parler après. Prions pour ce soir que le Seigneur bénisse le baptême. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Peut-être ces personnes, je ne vais pas les mettre mal à l'aise, mais peut-être elles veulent lever la main maintenant devant tout le monde. N'ayez pas honte devant le Seigneur. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer un temps maintenant de communion fraternelle, parler et voyez si vous pouvez faire des plans pour vous retrouver ce soir ensemble.